Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez de lire cette parabole de l'intendant infidèle, cet intendant qui est accusé de dissiper ou mal gérer les biens de son maître et qui doit en rendre des comptes. Donc visiblement, il est accusé à juste titre par son maître. Notre Seigneur Jésus-Christ y voit une leçon de prudence. Une leçon de prudence de la part de cet intendant, de prudence dans le mal, qui sera un exemple pour nous de prudence dans le bien, qui consiste à accumuler, bien sûr, des mérites. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions un peu sur cet intendant lui-même et son défaut principal qui ressort de cette petite parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Son défaut principal, c'est la paresse. La paresse, on aurait tort de considérer qu'elle consiste à ne rien faire. Ce serait un mode de paresse, effectivement, ne rien faire de la journée, mais c'est beaucoup plus vicieux que cela, la paresse. La paresse est justement un vice, une manière de se comporter qui est mauvaise et qui est habituelle. C'est ça la définition du vice. Et la paresse, eh bien, c'est le vice qui consiste en réalité à fuir l'effort, d'une manière ou d'une autre. Reprenons notre intendant infidèle. Pourquoi il en est arrivé là, à devoir rendre des comptes? Simplement parce que il a mal géré parce que il a été négligent. C'est le point de départ en général d'une attitude et de ce vice de la paresse. La négligence par rapport à nos devoirs. Il néglige ses devoirs d'intendant. Il néglige de regarder, de faire payer ceux qui doivent payer en temps opportun. Il néglige peut-être d'autres choses, d'entretenir le matériel, etc. Au point que il est accusé même de dissiper la fortune de son maître, de son seigneur. C'est le point de départ, c'est la négligence. On fuit le devoir, on néglige de l'accomplir, et cela va mener, évidemment, aux étapes suivantes. Forcément, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est confronté à ses responsabilités. Si on a été négligent, eh bien, à un moment donné, il faudra affronter ce qu'on a négligé. C'est ce qui se passe avec cet intendant infidèle. Que fait-il? Est-ce qu'il dit à son maître, oui, j'ai été négligent, je vais réparer cela? Non. Il poursuit dans son attitude. C'est là que la paresse est vraiment devenue un vice. Et un vice qui est grave, et nous le verrons dans ses conséquences. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit en lui-même, nous dit notre Seigneur, « Travailler, c'est trop difficile. Faudere non valeo, hein, faudere, creuser la terre, travailler la terre, c'est trop difficile pour moi. Mendier, moi quand même, j'en rougirais, ce serait la honte pour moi. » Donc il y a le refus de travailler. C'est pas qu'il n'en est pas capable. D'ailleurs, creuser la terre, faire des travaux humbles et physiques, en règle générale, tout le monde en est à peu près capable, parce que ça demande pas énormément de réflexion de bêcher le jardin, n'est-ce pas? C'est surtout un travail physique. Mais lui, il s'en prétend incapable. C'est surtout qu'il ne veut pas faire cet effort. Parce que c'est revenir à des choses humbles, des choses simples, et surtout faire des efforts. Donc le paresseux, qui est confronté à ses responsabilités, il va chercher d'autres solutions. Il va refuser les solutions qui le feraient, le ramèneraient à la réalité. Les solutions qui le ramèneraient à l'humilité. Parce que c'est important, derrière le paresseux, il y a un orgueilleux. Il ne veut pas travailler, en fait. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Et mendier, il en aurait honte. Le paresseux a cet orgueil de ne pas vouloir demander de l'aide. Parce que quand on a du mal même à faire quelque chose, c'est pas que cet intendant en était incapable. S'il a été choisi comme intendant par son maître, c'est que à la base, il avait quand même des capacités pour faire le travail correctement. Donc, autre manifestation d'orgueil, à la fois il ne veut pas des travaux plus humbles, mais il ne veut pas non plus demander de l'aide. Parce que, à un moment donné, quand on s'aperçoit que on est arrivé dans une situation de négligence telle qu'on a du mal à s'en sortir tout seul, il faut admettre qu'on a besoin de l'aide des autres. C'est pas forcément une aide financière directement, parce que ce serait encore encourager la paresse de cet homme. Ce serait plutôt une aide à trouver un travail. Comme on le voit dans l'autre parabole de notre Seigneur, ce maître de la vigne qui va parcourir toute la ville pour trouver des ouvriers. Hein, que faites-vous toute la journée oisif, dit ce maître de la vigne. Moi, je vous donne du travail. Pour un sou, eh bien, je vous donne du travail. Peu importe à quelle heure ils vont venir. Donc, l'aide peut être une aide de ce genre. Mais il veut même pas demander ce genre d'aide. Non. Donc, on voit que derrière le paresseux, il y a cet orgueilleux. Cet orgueilleux qui refuse le travail pénible, qui refuse de demander de l'aide. Ça, c'est la phase 1. La première phase qui est une espèce de phase plutôt passive, finalement. On est dans la négligence, on se demande que faire, et au lieu de trouver les bonnes solutions, on refuse ces bonnes solutions comme trop coûteuses, trop difficiles, trop humiliantes. Donc, il va falloir trouver des autres solutions. Et c'est là que les paresseux sont admirablement créatifs. C'est ce que loue en quelque sorte notre Seigneur Jésus-Christ pour le coup. Ils deviennent extraordinairement actifs, non pas pour le bien, mais pour le mal. Et donc on voit que là, ce qui paraît bénin comme paresse, comme attitude, devient grave. On le voit d'ailleurs dans notre société actuelle. Recherche de la facilité. C'est plus facile de faire divers trafics. C'est plus facile de profiter d'être un spécialiste de toutes les aides sociales X, Y, Z que de travailler. Et donc, une bonne partie de la délinquance aujourd'hui vient de cette mentalité de paresse. Donc, attention, si de près ou de loin vous vous reconnaissez, et de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons tous nous reconnaître dans cet exemple. Je veux insister là-dessus, parce que c'est tellement facile de dire « Oui, évidemment, je connais un tel, ils sont comme ça. » Mais en réalité, ça a commencé par des petites négligences. Ça a commencé par une petite mentalité de paresse pour en arriver à ce degré. C'est toujours la même chose dans le vice. On commence petit et on finit par les plus grands vices. Alors je vous dirais, c'est la même chose aussi dans la vertu. Il faut ne pas viser des grandes choses, il faut viser les actes de vertu, évidemment, les plus humbles, les plus simples, pour pouvoir progresser aussi dans la vertu. Donc, les fausses solutions, qu'est-ce qui nous fait ? Eh bien, il va trouver les débiteurs, ceux qui doivent quelque chose à son maître, et il va leur faire des ristournes pour s'en faire des amis. Voilà la solution. Et donc, il se fait passer pour encore maître de tous les biens, hein, pour le coup, parce que là, il est déjà, il n'a plus le droit de gérer ces choses-là, mais il le cache. Donc, le paresseux, il devient menteur. C'est assez caractéristique, on le voit très bien en général, d'ailleurs chez les enfants, hein, qui veulent échapper à leurs responsabilités, à leurs devoirs, etc. Ils mentent. C'est important de s'en rendre compte pour lutter contre les défauts qu'il y a à la base. Il triche. Il triche parce que, effectivement, il fraude, il vole son maître. Alors, est-ce que c'est une nuisance directement? Est-ce qu'il a l'intention de nuire, de se venger en quelque sorte parce que son maître, eh bien, le met à la porte? C'est possible, on peut l'imaginer. Ce n'est pas évoqué, bien sûr, par notre Seigneur Jésus-Christ, mais on peut développer la parabole. Et souvent, on s'en aperçoit dans la vie réelle, pour le coup, il peut y avoir cette volonté de nuisance par rapport à ceux qui nous mettent devant nos responsabilités. On leur en veut, et si on peut se venger, on va le faire. Malheureusement, on voit encore un grave défaut qui va découler ici de la paresse. La haine des autres et le mal qu'on va faire aux autres, l'injustice. Donc mensonge, tricherie, injustice, nuisance, fraude, vol, etc. sont souvent des conséquences de la paresse. Donc ils vont avoir de la créativité après pour organiser des vols, pour organiser des trafics, pour organiser de la fraude. Ça demande de la créativité, ça demande moins d'efforts que d'aller creuser la terre, d'aller travailler. Mais là, ils font des efforts parce qu'ils recherchent la facilité. Ils recherchent l'argent facile. Ils recherchent des amis à se faire des amis. Là encore, des faux amis ou du moins une amitié qui est intéressée. C'est même une forme de manipulation en réalité. « Ah ben, je t'ai fait une ristourne, tu me dois bien ça, etc. » Donc, les paresseux deviennent extrêmement vicieux, astucieux, ils sont intelligents. Mais intelligents dans le mal. Ils sont prudents, mais ils sont prudents dans le mal. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça, ça part de quoi? De la paresse. Donc, c'est un défaut qu'on ne doit pas négliger, justement. C'est un défaut qu'on doit bien considérer en nous-mêmes, et puis évidemment, quand on a une responsabilité, notamment dans l'éducation, c'est un défaut, évidemment, à combattre. Ensuite, une des caractéristiques de cet intendant infidèle, c'est l'endurcissement du cœur. À aucun moment, il se remet en question. À aucun moment, il se dit « J'ai mal géré les choses, je me suis laissé aller ». Je vais faire mieux. Non. Il se pose pas de questions. La seule question qui se pose, c'est, travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Demander la charité, voler, c'est pas beau. Si, il le fait, pour le coup. Demander la charité, faire la manche, non, ça va pas. Donc, on va truquer, on va tricher. Il s'endurcit vraiment dans le mal. À aucun moment, il ne reconnaît sa faute. À aucun moment, il ne cherche à réparer ses négligences. À aucun moment, il ne veut se confronter à ses responsabilités. On a derrière le paresseux un orgueilleux et un égocentrique. Il est totalement tourné sur lui-même. Il s'en fiche des finances de son maître, qui lui a fait confiance. Il s'en fiche même de perdre la confiance de son maître. Non. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite vie, et il considère tous les moyens immédiats pour, soi-disant, survivre, au lieu de considérer quoi, ce qu'il doit faire. Voilà l'image du paresseux. Bien sûr, c'est le paresseux extrême, mais le paresseux extrême, il vient du petit paresseux. Il vient d'un vice qui n'a pas été combattu. Il vient de vertus qui n'ont pas été développées. J'y reviendrai peut-être. Des vertus qui n'ont pas été développées, et dans notre société, évidemment, on ne développe pas le sens de l'effort, on ne développe pas le sens du devoir. Donc, quels sont, mes bien chers frères, les remèdes, la voie de sortie à la paresse? La voie de sortie, la première, c'est l'humilité. C'est ce qui manque à cet intendant infidèle pour sortir de sa mauvaise mentalité, pour ne pas aller plus loin dans le mal et donc en causant des injustices par la fraude, par la manipulation des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être humble. Il faut reconnaître qu'on a mal fait. Il faut reconnaître que jusqu'ici, eh bien, on n'était pas dans la bonne voie. Il faut reconnaître qu'on a été négligent, qu'on s'est laissé aller à la paresse. C'est la première chose. La deuxième chose, dans l'humilité, c'est d'accepter les vraies solutions. Les solutions qui nous ramènent à quelque chose de plus humble, notamment le travail, et même le travail un peu plus physique. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le travail physique a été bien amélioré par des machines, etc. Et c'est totalement légitime, hein. On n'est pas contre le progrès, hein, soi-disant. On nous accuse toujours d'être contre la modernité, contre le progrès, des accusations absurdes qui n'ont absolument aucun sens. Il faudrait définir c'est quoi le progrès, c'est quoi la modernité. Bref, c'est pas un problème d'utiliser des tracteurs, d'utiliser des machines, des tracteurs pour labourer les champs, pour faire les foins, les moissons. C'est pas un problème d'utiliser des machines pour fabriquer des choses, etc., même à la chaîne. C'est pas ça le problème. Si ça nous facilite la tâche, et si on peut transporter plus de choses avec un porte-palette qu'à la main, bah, bien sûr, c'est normal d'en profiter. C'est pas là la question. La question, c'est la mentalité. C'est être prêt à travailler pour gagner sa vie. À travailler vraiment, d'une manière ou d'une autre. Donc la plupart du temps, on veut choisir la facilité. D'autre part, c'est l'histoire d'aimer son travail. Ben, bon, y en a peut-être qui aiment leur travail, mais c'est pas le problème. En fait, on s'en fiche. En tant que chrétien, on a un point de vue plus surnaturel vis-à-vis du travail. Le point de vue surnaturel vis-à-vis du travail, c'est que le travail, c'est la peine du péché. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. C'est la peine du péché, une des peines du péché originel. Donc on doit avoir cet aspect du travail à l'esprit. Dans notre monde actuel, c'est la mentalité du travail plaisir, de se faire plaisir, qu'on est plus efficace quand on se fait plaisir dans son travail, etc. Peut-être. Mais même ceux qui font un travail, je dirais, qui leur plaît, ils seront bons dans leur travail s'ils admettent le sens de l'effort. C'est nécessaire. Tout travail demande un effort. Même les travaux, on va dire, à tendance plutôt artistique, etc., on peut se dire, oh, c'est un plaisir, on va faire la peinture, la sculpture, je sais pas quoi. Mais c'est un vrai travail. Il y a un travail de pensée, il y a un travail physique aussi, etc. Et il y a des efforts à fournir si on veut vraiment en vivre. Donc, derrière cela, on a un mythe aussi qui est engendré par notre société. On ne veut pas du travail comme une peine du péché, parce que le péché n'existe pas, spécialement le péché originel. On ne veut pas de la vertu d'humilité qui nous ramène à notre place. Donc, le premier remède, c'est l'humilité. De cette humilité découle la reconnaissance de ses fautes, de sa paresse. Donc, l'autre remède qui est en continuité, c'est la confession. Ben oui. Et la confession, pourquoi certains retardent aussi la confession? Parce que ça demande un effort. Ça demande un acte d'humilité. Donc derrière le fait même de retarder la confession, on a aussi cette forme de paresse qui renaît. Cette forme d'orgueil. Donc la confession et la confession régulière est aussi un remède à la paresse. Parce qu'elle nous confronte, si on se confesse honnêtement, elle nous confronte à nos responsabilités. Et c'est justement ce que le paresseux ne veut pas. Il veut fuir ses responsabilités. Et le paresseux, c'est une fuite en avant, comme on le voit à travers cet exemple de l'intendant infidèle. Et c'est une fuite en avant dans laquelle on tombe de plus en plus bas et on fait des choses de plus en plus mauvaises, on fait n'importe quoi. La confession régulière, c'est cet acte d'humilité, mais c'est aussi cet autre aspect d'accepter de se faire aider. Parce que le prêtre, il est là aussi dans la confession pour donner des conseils. Encore faut-il les suivre. Le paresseux, bien sûr, celui qui veut le rester, ne va pas suivre les conseils. Les conseils sont toujours trop durs. Les paroles du prêtre sont toujours trop dures. Les exigences que rappelle le prêtre sont toujours trop dures. À chaque fois, d'ailleurs je le vois personnellement, à chaque fois que je rappelle certains devoirs, certaines exigences de la foi, ça me revient toujours aux oreilles. Vous feriez mieux de me parler directement, parce que c'est une chose que je n'aime pas déjà et qui n'est pas correcte, qu'on dise oui, qu'est-ce qu'il a, il est dépressif, etc. Non, pas du tout. Je fais simplement mon devoir de vous rappeler vos devoirs. C'est juste mon devoir. Et si je ne le faisais pas, je tomberais aussi dans la paresse. Donc c'est quelque chose de coûteux, parfois, d'être un peu plus fort, de hausser le ton, de rappeler les vérités de foi et les devoirs de morale de chrétien d'une façon plus nette, plus prenante, comme le devoir d'assistance à la messe le dimanche, etc. Et quand on a des véritables empêchements, eh bien, il faut se poser la question et poser la question avec le prêtre, parce que, en règle générale, beaucoup de personnes se dispensent assez facilement sans avoir nécessairement les raisons de le faire proportionnellement graves, puisque je vous rappelle que par rapport à un devoir grave, pour nous excuser de ce devoir grave, il faut une raison proportionnellement grave. Or, par exemple, je pourrais donner d'autres exemples, le devoir de la messe du dimanche, c'est un devoir grave. Donc, il faut une raison proportionnée. Mais quand je dis ça, eh bien, je ne comprends pas, je suis pas ouvert, etc., etc. Bref. Toujours la même chose, la fuite. On fuit ses responsabilités et on ne veut pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Donc, le remède aussi, c'est cela. C'est avoir l'humilité de faire ce qu'on nous dit de faire. Parce que le paresseux peut être tellement dans sa paresse que il est un peu paralysé et il ne voit même plus ses devoirs parce que c'est devenu une habitude mauvaise. Donc il doit avoir l'humilité, le courage Ben, de suivre ce que quelqu'un d'autre lui dit. Celui qui a l'habitude de ne pas travailler ou d'enchaîner les petits boulots sans véritablement de persévérance. Alors, faut pas s'excuser sur la société actuelle, c'est trop facile. Du travail, il y a moyen, hein, il y a moyen d'être persévérant dans un travail. Malheureusement, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a ? On a des paresseux qui ne veulent pas d'exigence en termes d'horaire, qui ne veulent pas d'exigence en termes de travail demandé, qui ne veulent pas obéir à un patron. C'est plus facile de travailler tout seul, on fait plus ou moins ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Je dis pas que c'est mal, hein, l'auto-entrepreneuriat, mais ce que je dis, c'est que il faut quand même faire attention dans le monde actuel, spécialement paresseux, à la mentalité qui peut exister derrière. Et on ne doit pas être dans cette mentalité. Donc, voilà les divers remèdes. Humilité, confession, sens du devoir, sens de l'effort. C'est le remède, évidemment, principal. Et c'est ce qu'il faut, bien entendu, que nous travaillions chaque jour en nous. Notre sens du devoir. Pourquoi nous faisons les choses? Nous ne faisons pas les choses par plaisir, d'abord. On peut prendre du plaisir. Si nous prions tous les jours et nous devons prier chaque jour, c'est par devoir. Parfois, on en a plus de consolation, on en a plus de plaisir. Parfois, on en a moins, voire beaucoup moins. Le paresseux, eh bien, quand il est dans la difficulté, il va abandonner la prière. Ça va donner lieu, pour les anciens, à un autre vice spécifique. Vous pensez qu'il y a 7 péchés capitaux, il y en avait 8 dans l'Antiquité, et le 8e c'était la paresse justement sur les choses spirituelles, que les anciens appelaient l'acédie, akédia en grec, donc la paresse sur les choses spirituelles. Pourquoi on a réduit à 7? Ben parce qu'effectivement ça fait partie de la paresse, mais c'est sur un point particulier. Mais c'était pas si mal de mettre ce point particulier en exergue, parce que ça met encore plus le doigt sur la paresse, qui ne comprendrait pas seulement un péché capital, mais 2 péchés capitaux. Donc on a tendance à se dire le plus grave des péchés capitaux, c'est l'orgueil. C'est vrai, c'est le plus grave, parce que l'orgueil, c'est ce qui nous éloigne le plus de Dieu. Et mais si ces péchés sont un péché capitaux, c'est que chacun d'entre eux, finalement, à une gravité particulière, et la paresse à cette gravité particulière et va même sous-entendre l'orgueil. Donc soyons conscients de cette réalité et revenons sans cesse à notre devoir. S'il y a un mot qu'il faut nous rappeler en permanence, c'est celui-là. S'il y a une question que nous devons nous poser en permanence, c'est laquelle? C'est qu'est-ce que je dois faire, en tant que chrétien, évidemment. Quels sont mes devoirs? À partir du moment-là, il faut connaître ses devoirs et il faut pratiquer ses devoirs. La deuxième chose, après ce sens du devoir, bah, c'est le sens de l'effort. Accomplir son devoir demande toujours des efforts. À un moment ou à un autre. Parfois c'est facile, souvent ça ne l'est pas. Donc, si nous n'avons pas le sens de l'effort, si nous ne voulons pas nous faire violence à cette chair, comme le dit Saint Paul dans son épître aujourd'hui, si nous ne voulons pas nous faire violence, eh bien, et nous finirons dans cette mentalité de paresse. Et les conséquences peuvent être extrêmement graves. Donc ne mettons pas le doigt dans cet engrenage, mais plutôt dans celui de la vertu. Et l'engrenage de la vertu, c'est l'engrenage du devoir, c'est l'engrenage de l'effort. La paresse nous coupe de cela. Par conséquent, la paresse mène à un seul endroit, l'enfer. c'est la conséquence. Même si la plupart des petits actes de paresse, bien sûr, ne seront que des péchés véniels. Mais le vice de paresse qui va s'installer par la multiplication de ces actes peut mener, comme nous le voyons, et mène très souvent dans le péché mortel. Et mène dans une mentalité de rejet du devoir et de rejet de l'effort. Rejeter le devoir et rejeter l'effort, c'est rejeter la vie chrétienne. Rejeter la vie chrétienne, c'est rejeter le ciel. Rejeter le ciel, c'est embrasser l'enfer. C'est inéluctable. Donc nous devons avoir peur, effectivement, non seulement de la conséquence de l'enfer, nous devons avoir peur de la cause. Nous devons avoir peur de la paresse, nous devons faire tous nos efforts pour en sortir. Donc rentrons dans cet état d'esprit d'humilité, de contrition de nos fautes, de sens des responsabilités, de sens du devoir et de sens de l'effort. Demandons cette grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.